Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Semaine chargée sur le conflit israélo-palestinien. La Jordanie a officiellement présenté mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies un projet de résolution prônant la conclusion d'une paix entre Israéliens et Palestiniens dans un délai d'un an et la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens d'ici fin 2017. Et parallèlement, le Parlement européen a voté une résolution soutenant la reconnaissance de l'État de Palestine. Après les parlementaires suédois, espagnols, britanniques, irlandais, portugais et français, les parlementaires européens viennent donc s'inscrire dans une dynamique de recherche de la paix dans la région et renforcer la diplomatie de l'Union. L'Europe, de plus en plus impatiente vis-à-vis d'Israël, peut-elle être influente dans le conflit israélo-palestinien? Après l'échec en avril dernier des négociations au terme de 9 mois de médiation du secrétaire d'État américain John Kerry et l'horreur de la guerre à Gaza, regard sur le nouveau plan d'action diplomatique des Palestiniens qui place les États-Unis dans une position délicate. On le verra. Janvier 2015 marquera le 10e anniversaire de l'élection de Mahmoud Abbas au poste de président de l'autorité palestinienne et de nouvelles élections sont attendues en mars en Israël. Nos invités, Hassan Balaoui, membre de la mission de Palestine auprès de l'Union européenne et responsable des relations bilatérales avec la Belgique et le Luxembourg. Bonjour.
Bonjour.
Xavier Baron, journaliste et ancien chef du bureau de l'agence France Presse au Proche-Orient, auteur de « Les Palestiniens, genèse d'une nation ». Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Vidal, écrivain et journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien et son histoire. Le dernier paru, « Palestine, le jeu des puissants » aux éditions Actes Sud dans la collection Sinbad. Bonjour.
Bonjour.
Les choses bougent donc autour de la question israélo-palestinienne. Pourquoi maintenant? On parle d'une fenêtre d'opportunité, de changement de méthode. De quoi est-il question et quelle est la signification d'une part du vote favorable du Parlement européen et d'autre part ce projet de résolution déposé par la Jordanie au Conseil de sécurité des Nations Unies à Hassan Balaoui?
Je pense qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au bout de 25 ans, donc depuis Madrid 91, le processus de paix se déroule de façon bilatérale et sous la domination totale américaine et loin des Nations Unies, loin du droit international. Nous avons essayé, et quand je dis nous, donc ça inclut la communauté internationale, y compris les Palestiniens, Israéliens, Européens, nous avons tenter de combiner, de faire marier occupation et paix, nous avons échoué. Cette méthode a échoué. Ou il faut la paix, ou il faut l'occupation. On ne peut pas continuer. L'occupation ne cesse de durer, qui traverse, qui prend des tournures, que ce soit construction de murs, agression militaire contre Gaza en 3 fois en l'espace de 6 ans, isolement de Jérusalem. Nous sommes arrivés en tant que Palestiniens, nous sommes arrivés à une situation où de plus en plus, il ne reste rien à négocier sur le terrain. La terre palestinienne est en train d'être confisquée. Nous avons besoin de revenir à la caisse de départ. La caisse de départ, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui a décidé en 1947, le 29 novembre, la décision, la résolution de partager la Palestine en 2 États. Il y a un État qui naît et l'autre reste à naître. Dans ce cadre-là, nous avons besoin de revenir aux Nations Unies. Nous croyons toujours aux négociations. Nous voulons les négociations. Mais nous voulons les négociations qu'elles se déroulent dans le cadre du droit international, dans le cadre des Nations Unies. Il n'est pas possible, il n'est pas admissible que les Nations Unies, qui sont présentes presque un peu partout dans tous les conflits du monde, qu'elles soient absentes sur le dossier palestinien, un dossier qui a été créé initialement par les Nations Unies. Dans ce sens-là, nous avons besoin de revenir sur le cadre de la légalité internationale avec la présence de tous les acteurs dans la région.
Donc, replacer la question israélo-palestinienne sur la scène onusienne, je vous ai bien compris. Hassan Balaoui, je me tourne vers vous, Dominique Vidal. Dans votre ouvrage, justement, en introduction, vous écrivez que la principale leçon des 20 ans d'Oslo est qu'il n'y aura pas d'issue au conflit israélo-palestinien tant que le monde laissera les deux parties face à face, tel le pot de fer et le pot de terre.
Absolument. On fait semblant qu'il s'agit de deux parties égales qui discuteraient tranquillement de la solution d'un conflit qui dure depuis des décennies. Et Hassan Balaoui a eu raison de rappeler que c'est l'ONU, la résolution 181, qui a mis le feu aux poudres, puisqu'elle a créé les bases d'une solution qu'elle n'a pas fait appliquer. On a eu un État, l'État d'Israël, et pas l'autre État, l'État de Palestine, l'État arabe de Palestine, tel qu'il était prévu. Ce qui me semble, et je partage votre idée de la fenêtre d'opportunité, mais d'une certaine manière, c'est une fenêtre d'opportunité négative. C'est-à-dire, on est dans une véritable leçon de choses en 2014, avec la fin des négociations initiées par John Kerry, du fait d'Israël, et ça, la plupart des observateurs le disent clairement, même des observateurs plutôt sympathiques à l'égard d'Israël. Deuxièmement, on a l'horreur de Gaza, avec la complicité ou la complaisance de la plupart des gouvernements, et pas seulement occidentaux, gouvernement russe, gouvernement chinois, je m'excuse de le dire, mais les gouvernements arabes, suivant l'Égypte. Et puis, au milieu de tout ça, tout d'un coup, en plein été, des manifestations de masse un peu partout dans le monde, de très grandes manifestations, pas seulement en France, hein, en Grande-Bretagne, en Australie, au Canada, aux États-Unis, même en Allemagne. C'est dire qu'il y a un fossé qui s'est créé entre les autorités et les opinions. Et je crois que Laurent Fabius a eu raison de dire le 2 décembre, le jour du vote du Parlement français.
Ministre français des Affaires étrangères.
Bien sûr, que cette vague de reconnaissance qui s'est amplifiée depuis, il y a eu aussi la Slovénie, il y a eu aussi le Luxembourg, il y a eu aussi le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, etc. Cette vague-là, elle est provoquée par la volonté de tenir compte des opinions, de ne pas laisser un tel fossé entre les opinions et les gouvernements. Et je crois qu'on est effectivement, avec le débat à l'ONU, à l'apogée de cette grande bataille diplomatique. Personnellement, je n'ai pas souvenir d'un seul moment, depuis que le conflit s'est créé, où on ait eu un tel mouvement, à la fois politique et diplomatique, en faveur des droits du peuple palestinien.
Xavier Baron.
Oui, c'est vrai que l'opinion est en train de changer, notamment en Europe, et ça doit compter. Mais c'est sur le terrain que quand même que les choses se jouent. Or, actuellement, s'il y a eu une fenêtre d'opportunité, est-ce qu'elle n'est pas fermée très rapidement? Parce qu'on commence déjà à dire aux Palestiniens, c'est pas le moment de lancer des initiatives. À la veille des élections israéliennes, vous allez provoquer l'élection d'un gouvernement encore plus à droite en Israël. Alors, encore une fois, on dit le moment n'est pas venu, et après on risque de dire, les élections américaines approchent, et les républicains vont gagner si vous ne soutenez pas la politique d'Obama. Donc, il y a toujours ce problème, cette difficulté qui fait que pour les Palestiniens, qui effectivement changent, doivent changer de politique ou d'orientation, parce que tout ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, ils ont tout essayé et tout a toujours été refusé. Il y avait toujours de bons motifs pour ne pas tenir compte de leurs demandes. Est-ce que cette fenêtre d'opportunité va aller jusque-là, jusqu'au mois prochain?
Alors, réponse de Hassan Balaoui.
Je comprends parfaitement la logique tenue par Xavier Baron par rapport aux élections israéliennes. Nous sommes à une situation similaire en 1999, lorsque le président Arafat, qui s'adressait aux Nations Unies à New York, avait préparé un discours, et dans ce discours, il y avait l'éventualité de demander aux Nations Unies de reconnaître l'État de Palestine. À cette époque-là, Benjamin Netanyahu, toujours en poste comme Premier ministre, a fait la même chose, a fait des élections israéliennes. Anticipé. Et les Américains, et les Européens, et certains États arabes sont venus voir le président Arafat et lui dire, écoutez, si vous allez déclarer l'État de Palestine, vous allez faire en sorte que Netanyahu reste au pouvoir. Et d'autant plus, à l'époque, on parlait de Ehud Barak, président de parti travailliste, qui avait tenu à cette époque-là certaines déclarations annonçant sa volonté de se retirer dessus de Liban, annonçant sa volonté d'engager des négociations avec les Palestiniens. Et les Palestiniens, ils ont accepté. Et dans cette période, l'Europe, qui s'est réunie au sommet de Berlin, a dit aux Palestiniens, ne faites pas cet acte bilatéral. Nous, Europe, nous sommes en faveur de vous. Nous allons publier une déclaration dans laquelle l'Europe affirme qu'elle est pour la création d'un État palestinien. Ça a été fait. Mais ils ont utilisé la phrase que l'Europe reconnaîtra l'État de Palestine au moment venu. Au moment opportun. Sauf que depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, donc on attend ce moment opportun. Donc nous avons déjà eu cette expérience dans le passé. Le fait de faire les élections israéliennes, c'est un jeu qu'on connaît, on l'a déjà essayé, c'est un piège dans la question. Non, il est temps aujourd'hui, nous ne pouvons plus. La situation sur le terrain, non seulement elle est explosive, mais aussi elle arrive à un moment que l'idée même des États une idée, un projet qui a été initié par l'OLP depuis presque 40 ans, cette option elle-même, elle est menacée. De plus en plus, il y a des voix, non seulement au sein de l'opposition palestinienne, mais au sein aussi d'une partie de la direction palestinienne, de l'institution palestinienne, qui disent il n'est plus possible de parler de deux États, nous devons réfléchir à un autre, à une autre vision des choses. C'est pour cela, je crois que j'ai peur même qu'on soit déjà en retard le fait de prendre cette décision. Il y a une pression populaire sur l'institution palestinienne, sur la direction palestinienne, de changer les donnes sur le terrain. C'est pour cela l'idée des élections et l'idée de veto américain, cette fois-ci de côté palestinien, ça ne change pas la vision. Et je crois que les Palestiniens sont prêts à toutes les réponses et à toutes les menaces qui commencent à s'exercer.
Vous écoutez RFI.
Géopolitique. Alors, Dominique Vidal, j'entendais Hassan Balaoui dire que peut-être c'était déjà trop tard, c'est intéressant, alors qu'on parlait donc de fenêtre d'opportunité et vous évoquiez une fenêtre plutôt négative. Un commentaire, Dominique Vidal.
Mais écoutez, moi j'ai été frappé par ce qu'a dit Xavier Baron en disant que sur le terrain, tout ça ne change pas. Ça dépend de quel terrain on parle. Si on parle du terrain palestinien-israélien, effectivement, toutes les gesticulations diplomatiques n'ont pas d'effet immédiat, en tout cas, sur la colonisation, la brutalité de la répression quotidienne, les enfants assassinés, les militants pourchassés, tués. C'est vrai. Mais il y a un autre terrain, qui est le terrain diplomatique. Et moi, j'observe que jamais Israël n'a été aussi isolé dans les opinions, mais pas seulement dans les opinions, aussi dans les institutions que sont nos parlements, y compris le Parlement européen. Je signale au passage que cette semaine, la Cour européenne de justice, pour des raisons juridiques, mais c'est un fait politique majeur, a retiré le Hamas de la liste des organisations terroristes. Je signale aussi qu'il y a eu une assemblée générale de la Convention de Genève en Suisse qui a, malgré toutes les pressions, réitéré son appel à Israël à respecter la Convention. Bref, on a vraiment un sentiment d'isolement, et d'ailleurs il suffit de lire la presse israélienne pour savoir que là-bas, on en est tout à fait conscient. Donc je crois que oui, ça risque d'être trop tard si on reste encore dans la logique d'Oslo, qui au fond est une logique, et je pense qu'elle l'était dès le début, une logique vicieuse, perverse, puisqu'on fait un accord intérimaire, et au nom de cet accord intérimaire, on repousse au calende le débat sur les problèmes de fond, les frontières, la capitale, les colonies, les réfugiés, les richesses naturelles, etc. Il faut renverser, comme le disait Hassan Balaoui, cette logique, c'est-à-dire fixer d'abord le cadre, les frontières 67, la capitale à Jérusalem, et un délai qui fasse qu'on ne puisse pas renvoyer au calende. Ensuite, tout dépendra de l'intervention des grandes puissances. Moi, ce qui me frappe, ça n'est pas l'annonce d'un veto américain, qui n'est pas vraiment une surprise, mais c'est la difficulté qu'ont eu les États-Unis à essayer d'éviter ce veto. Et je crois que c'est très important de bien mesurer que, en pleine croisade de la coalition arabo-occidentale contre Daesh, contre l'État islamique, c'est clair que vétoiser la Palestine n'est pas une très bonne manière de souder cette coalition. Donc il y a vraiment pour les États-Unis une grande difficulté à faire retarder encore une fois au nom de le moment opportun qui devient un refrain que les Palestiniens, mais pas seulement les Palestiniens, le monde entier connaît et ne connaît que trop, je dirais.
Alors, pour ce qui est du veto, et pour bien éclairer nos auditeurs, vous évoquez l'État islamique. C'est vrai que les Américains ont besoin d'une large coalition des pays arabes dans la lutte contre l'État islamique. Alors moi, j'ai cette question. Finalement, le veto américain, est-ce qu'il est inévitable, Xavier Baron?
En tous les cas, les Américains ont annoncé qu'ils mettraient leur veto. Inévitable, ce ne sera pas la première fois, hélas. Si on fait le calcul du nombre de fois où ils ont mis leur veto sur des problèmes concernant le Proche-Orient, ce ne sera pas une nouveauté. Donc là, manifestement, la décision est prise, et même annoncée quasi officiellement. Mais pour revenir sur ce que dit Dominique Vidal, c'est bien effectivement d'imaginer de retourner la logique, et c'est vrai qu'Israël est de plus en plus isolé, ce qui est sans doute un fait nouveau sur la scène internationale, mais Il y a quand même un problème. Est-il aujourd'hui encore possible de créer un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est? Est-ce que le terrain est toujours... est-ce qu'il y a toujours un terrain, un territoire pour créer cet État? Bon, on peut en douter quand on voit comment ce territoire a été découplé, marcelé, le mur, les routes de contournement, les centaines de barrages policiers. Peut-on faire un État dans ces conditions-là? Ou alors, on fait un État, comme l'a dit Monsieur Netanyahou en 2009, alors on se base là-dessus pour dire les Israéliens veulent un État. Mais il faut regarder ça de près. Il est tout à fait douteux que les Israéliens veuillent un État. Donc on est en train de parler de choses dont on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il a dit en 2009 dans son discours de juin à l'université de Bar-Ilan, qui est la référence de l'acceptation par les Israéliens d'un État palestinien? Il a dit des choses incompatibles avec un État. C'est-à-dire d'abord, condition préalable, les Palestiniens doivent reconnaître qu'Israël est un État juif. Avant toute chose, ils doivent reconnaître ça. Donc il y a un ukase au début. Et ensuite, il dit cet État, dont il n'a évidemment pas précisé les frontières, on ne sait pas de quoi il parle. Il dit cet État, Jérusalem en est exclu. Cet État n'aura pas de souveraineté aérienne, n'aura pas de souveraineté maritime, ses frontières sont contrôlées et il n'y aura pas les échanges possibles. Donc c'est pas du tout d'un État. La définition d'un État, c'est un territoire avec une souveraineté. C'est pas du tout ça que veut Monsieur Netanyahou. Donc même ça, on est en train de discuter sur un malentendu.
Donc finalement, ce que vous dites, si je vous ai bien compris, Xavier Barpon, c'est que finalement, la logique d'Oslo, elle est tout simplement enterrée à Sainte-Balaoui.
Je comprends tout à fait. Je suis d'accord en grande partie avec ce qu'il dit sur la possibilité de la naissance réelle. Je veux dire, si maintenant Israël dit oui, on veut un État palestinien, concrètement, avec le nombre des colons qui arrivent à 600 000 colons, avec le mur, avec les colonisations et les colonisations qui rendent impossible maintenant, je veux dire, si on décide de faire un État, il n'y a pas de communication, que ce soit en Cisjordanie ou avec Jérusalem, ou sans parler aussi de Gaza. Et c'est peut-être pour ça que la direction palestinienne veut tirer la sonnette d'alarme dans ce sens-là, de dire déjà c'est impossible de faire un État, donc comment les choses vont se passer? C'est pour ça, donc, il y avait l'idée de 2 ans, 3 ans d'accomplir le retrait des forces d'occupation israéliennes à travers les négociations, parce qu'on sait que c'est à travers les négociations qu'on pourra parvenir à la réalisation d'un État. Il peut y avoir toujours des compromis, il peut y avoir toujours des arrangements concernant la naissance concrète d'un État. Bien sûr, les Palestiniens ne peuvent admettre un État virtuel. Non, il faut que ce soit un État avec souveraineté, avec des frontières, que ce soit côté Gaza, que ce soit côté Jordanie, avec Jérusalem capitale. Mais il y a aussi autre chose que je voudrais aussi dire par rapport à là, c'est qu'au-delà de la discussion si un État palestinien aujourd'hui est faisable ou non, je crois que la direction palestinienne, l'OLP, est en train de tirer, de dire un signal ou une sorte d'avertissement quelque part, c'est que s'il y a l'échec des tentatives de l'État de Palestine, et il y a un risque qui est de plus en plus grandissant de passer de la logique de l'État de Palestine à la logique de la cause de Palestine.
C'est-à-dire concrètement,
concrètement, exactement. La logique de l'État de Palestine a été adoptée en 1974, lorsque l'OLP décide dans le Conseil national palestinien au Caire, en 1974, de créer un État palestinien sur une partie de toute terre palestinienne. Avant 1974, la logique de l'OLP était la logique de la cause palestinienne, était la logique de la libération de la Palestine. C'est-à-dire qu'il n'était pas question d'avoir un État, il était question de la libération de toute la Palestine. Cette logique, si la logique de l'État échoue, et c'est une logique sur laquelle l'OLP est mise depuis 40 ans, ça sera une logique de la cause palestinienne, c'est-à-dire qu'on parlera des composantes de la cause palestinienne, c'est-à-dire qu'on parlera des réfugiés, des Palestiniens qui sont à l'extérieur de Jérusalem, dans l'ensemble de la cause, dans toutes ses composantes depuis 1947. Et là, ça veut dire que c'est pas simplement Oslo, mais c'est la logique elle-même de 2 États qui sera mise en cause. Et c'est peut-être pas forcément la direction actuelle qui fera ce changement. Ça pourra être une autre direction, ça pourra être une autre organisation, il pourra avoir l'émergence d'une nouvelle institution palestinienne qui dit, maintenant, ça suffit 40 ans, nous avons essayé cette voie de 2 États, ça ne marche pas, il faut revenir à la cause, il faut revenir à la logique de la libération de la Palestine, il faut revenir à la logique de la cause palestinienne et non pas l'État de Palestine. L'OLP a fait un changement stratégique il y a 40 ans. C'est ce changement stratégique qui aujourd'hui est en question.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Hassan Balaoui, Xavier Barpon et Dominique Vidal dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays européens marque-t-elle un tournant? Regard sur la question israélo-palestinienne replacée, comme nous en avons parlé dans la première partie de l'émission, sur la scène onusienne, la Jordanie, qui a donc officiellement présenté cette semaine, c'était mercredi, au Conseil de sécurité des Nations Unies, un projet de résolution prônant la conclusion d'une paix entre Israéliens et Palestiniens dans un délai d'un an et la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens d'ici fin 2017. Nous retrouvons nos invités, Hassan Balaoui, membre de la mission de Palestine auprès de l'Union européenne, Xavier Baron, journaliste, auteur de Les Palestiniens, jeunesse d'une nation, et Dominique Vidal, écrivain et journaliste, auteur de Palestine, le jeu des puissants aux éditions Actes Sud. Dominique Vidal, je me tourne vers vous. La question qui évoquait en fin de première partie Hassan Balaoui, ce débat, un État, deux États pour Israël, la Palestine, un complément de commentaire peut-être.
Écoutez, je trouve que l'hypothèse qu'a avancée Hassan Balaoui d'un changement de stratégie de l'OLP, d'un retour d'une certaine manière à l'idée d'une Palestine laïque et démocratique où l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur religion, puissent cohabiter, c'est effectivement non seulement un débat au sein de l'autorité palestinienne, on le sait, au sein du Fatah, son parti le plus important, mais c'est aussi un débat dans l'opinion palestinienne. Moi, je suis frappé qu'en quelques 2 ou 3 ans, le pourcentage de ceux qui sont favorables à un seul État binational, disons, pour aller vite, a augmenté considérablement. On est passé de 10 à 30, voire 40% des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Deuxième élément qui est évident, c'est que, contrairement à ce qu'il avait dit du bout des lèvres lors de son discours en 2009, Benjamin Netanyahou vient de dire qu'il n'acceptait absolument pas l'hypothèse d'un retrait d'Israël de Cisjordanie et encore moins d'un État, sans parler de la question des réfugiés et de Jérusalem. Bref, on est devant un échec. Et donc, si effectivement la démarche des parlements qu'on voit se développer et la bataille à l'ONU aboutit à un échec, on risque effectivement de se retrouver dans un chaos lié à la remise en cause des stratégies sur lesquelles nous vivons, et en particulier la stratégie palestinienne, mais aussi la stratégie israélienne. Et il y a 2 ans, j'avais coordonné aussi chez Sinbad un livre sur Israël-Palestine, un État, deux États. Et les deux thèses s'argumentent sans difficulté. Il y a un très bel idéal dans l'idée d'État binational, d'égalité de tous les citoyens, de coexistence pacifique. On ne peut pas la balayer d'un revers de main. Simplement, il faut bien mesurer les conséquences pour les Palestiniens, mais aussi pour Israël. Parce que le projet sioniste de Theodor Herzl, c'était de créer un État juif. Quand on imagine un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, il reste, si les citoyens israéliens en décident, un État juif. Mais à partir du moment où ce serait un État binational, le projet sioniste est terminé. Donc pour Israël, il y a là un grand problème, un grand doute. Et moi, je suis frappé que un très grand nombre de personnalités israéliennes, y compris des gens de l'establishment israélien, l'establishment militaire et politique, aient signé ces appels aux différents parlements européens en leur disant « Mais reconnaissez l'État de Palestine, vous nous rendez service à nous, Israéliens ». Ça n'est pas la majorité, évidemment, de l'opinion israélienne, mais enfin, il faut bien voir ce qui bouge. Et y compris ce qui bouge, je le dis clairement, en matière de pronostics. Moi, je refuse les pronostics. Tout le monde nous dit Benjamin Netanyahou va être réélu dans un fauteuil. Et je vois les sondages qui existent aujourd'hui. Et les sondages qui existent mettent les travaillistes et Tzipi Livni en tête. Donc, moi, je me garde de tout pronostic, mais je dis faites attention, regardez bien la manière dont les Israéliens, après Gaza, avec cet isolement qui est le leur sur la scène internationale, sont saisis d'un certain vertige par rapport à la suite.
Donc isolement d'Israël, vous l'avez évoqué, et ce que vous dites là, Dominique Vidal, c'est aussi un isolement finalement du gouvernement Netanyahou. Un commentaire, Xavier Baron, après ça, je reviendrai sur la stratégie.
Non, mais je suis tout à fait d'accord sur les différents éléments que vient de souligner Dominique Vidal, ce qui montre que la diplomatie, notamment occidentale, elle est un peu dans les nuages, parce qu'on est encore à se battre pour deux États, alors qu'on vient de dire justement, est-ce que c'est toujours d'actualité de discuter des deux États? Et puis, d'un autre côté, c'est l'aveuglement du gouvernement israélien, qui est quand même assez surprenante, parce que tous ces éléments montrant que l'intérêt d'Israël, c'est qu'il y a un État palestinien, on fait tout le contraire. Alors là, il y a un aveuglement qui est peut-être à court terme, mais enfin, la situation qui sera créée. Alors, les deux États, c'est donc précisément préserver un État juif, en tous les cas, un État tel qu'il existe depuis 1948. Mais on vient d'avoir un projet de loi qui définit l'État d'Israël comme l'État national des Juifs, ce qui vient encore compliquer les choses, parce que ça veut dire il y a quand même 20% d'Arabes en Israël. Que deviennent-ils ? Ils ne sont plus citoyens, ils n'ont plus droit. Donc là, il y a une espèce de fuite en avant dans tous les sens du gouvernement israélien qui complique jour après jour l'aboutissement et la solution et la paix.
Alors, fuite en avant, Hassan Balaoui, je me tourne vers vous. La France a aussi proposé, c'est pas officiellement annoncé, mais une conférence internationale. Alors finalement, une conférence pour quoi faire ? C'est un peu la question au débat d'aujourd'hui qu'on peut se poser. Et surtout, ce que je voudrais qu'on prenne le temps de se poser sur cette possibilité. Je veux dire, les Palestiniens ne manquent pas d'outils. Je replace le débat au niveau onusien. Les Palestiniens, ils ont prévenu que si jamais il y avait alors cet échec qu'évoquait à l'instant Dominique Vidal dans les résolutions à l'ONU, et puis donc le veto probable, voire quasi sûr des Américains. Donc, décision que prendraient les Palestiniens d'adhérer à toutes les agences relevant des Nations Unies, à commencer par la Cour pénale internationale. C'est là où ça peut faire mal, Hassan Balaoui.
Absolument. D'abord, déjà, l'État de Palestine est déjà membre observateur au sein de la Cour pénale internationale. Et l'ambassadeur de Palestine à l'ONU, Riyad Mansour, a assisté justement à une séance pour la première fois où il a clairement indiqué l'intention de l'État de Palestine d'adhérer complètement à cette Cour internationale, car la stratégie de l'OLP pour le moment est toujours placée dans l'optique de l'application du droit international. Et pour combler un vide qui existe aujourd'hui de plus en plus, non seulement en Palestine, mais aussi dans toute la région, il y a une insistance de revenir au droit international aux Nations Unies, à commencer par la Cour pénale internationale, pour juger les crimes qui ont été commis par les dirigeants israéliens, pas seulement par rapport à Gaza, mais même aussi par rapport en Cisjordanie, même par rapport à Jérusalem, même par rapport aux colonies, même aussi par rapport à l'assassinat d'un ministre palestinien il y a une semaine, Ziad Abu Ayn, alors qu'elle était en train d'implanter à Nulville. C'était dans le cadre d'une manifestation pacifique. Et le message qui a été donné par le gouvernement israélien, c'est qu'aucun responsable palestinien n'est à l'abri de quelconque menace. Mais aussi un autre message plus grave, à mon sens, c'est que les Israéliens voulaient réprimer toute action non violente, toute action pacifique. C'est-à-dire qu'ils disent aux Palestiniens, ne venez pas à ce type d'action. La politique du gouvernement israélien, il veut brouiller toutes les cartes, les agressions quotidiennes en Cisjordanie et aussi à Gaza et aussi les provocations à Jérusalem. C'est vise deux choses. Vise d'une part à encourager les Palestiniens à aller à la violence, d'abandonner la voie diplomatique, la voie juridique. C'est pour ça que c'est important pour la communauté internationale d'encourager les Palestiniens d'aller vers la voie diplomatique, vers la voie juridique. Parce que c'est quoi la solution ? La solution, si on échoue aussi, c'est qu'ils disent aux gens non, allez à la violence. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, concernant la tentative d'une dérive religieuse de conflit. Donc, il y a d'une part, effectivement, cette loi qui a été votée et cette tentative israélienne de reconnaître, de demander aux Palestiniens, précisément aux Palestiniens, de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël, une demande qui n'a jamais été faite tout au long du conflit, qui n'a jamais été faite ni à l'Égypte ni à la Jordanie, à aucun État, simplement aux Palestiniens. Et c'est une loi qui s'accompagne aussi d'un certain nombre de mesures d'action, d'attaques presque régulières contre des mosquées en Cisjordanie, mais contre aussi des églises à Jérusalem. L'objectif paraît clair, c'est de faire une dérive, de faire en sorte que le conflit devient religieux, parce que c'est dans une tentative du gouvernement israélien d'assimiler la lutte palestinienne. Il sait qu'aujourd'hui, il y a une campagne internationale anti-Daesh, anti-État islamique en Irak et en Syrie, et de dire qu'en quelque sorte, le combat palestinien est similaire de ce qui se passe au Daesh. De dire que la lutte israélienne, le combat israélien s'inscrit dans un combat international contre les islamistes. Mais ça, c'est un jour non seulement pour nous, Palestiniens, mais même aussi pour les Israéliens, et je dirais au-delà des Israéliens de donner ce caractère. Donc c'est pour cette raison, je reviens très rapidement, si le veto américain persiste, oui. S'il y a toujours un refus international d'accompagner, d'encourager la stratégie palestinienne, les Palestiniens vont vers toutes les institutions internationales, car ils veulent rester engagés, ils veulent rester dans la loi, dans l'objectif, dans l'optique du droit international.
Mais alors j'ai une question un peu naïve, Hassan Balaoui, vous évoquez ce risque d'une spirale de la violence, hein, avec des pressions exercées de part et d'autre. Pourquoi est-ce que les Palestiniens sont si transparents sur leur stratégie à venir ?
Parce que tout simplement, les Palestiniens, ils essayent dans ce combat-là qu'ils mènent d'impliquer le maximum de leur population et d'impliquer aussi les États qui soutiennent la position des Palestiniens en disant s'il y a une menace, s'il y a une objection de leur orientation, on va vers d'autres. C'est une façon aussi que les autres parties sauvent déjà les tentatives palestiniennes et aussi de les placer devant leurs responsabilités. Les Nations Unies, ils ont responsabilité. L'Europe a responsabilité. Et s'il y a un échec côté palestinien, ça aura des conséquences sur toute la région.
Dominique Vidal.
Oui, je crois que l'adhésion de l'État de Palestine à la Cour internationale de justice de la Haye et à la Cour pénale internationale, d'une certaine manière, c'est une forme de bombe atomique palestinienne dans le petit monde international, à l'ONU en particulier.
C'est l'arme suprême.
C'est une arme suprême, mais elle l'est réellement. C'est-à-dire que le fait de pouvoir, à partir de ce moment où l'État de Palestine a adhéré aux deux organismes, traîner devant les tribunaux les dirigeants israéliens, dirigeants politiques et dirigeants militaires, et de les mettre en accusation, c'est effectivement une perspective que l'État d'Israël et son allié américain, en l'occurrence, redoutent réellement. On sent une certaine fébrilité, voire même, chez certains, une panique devant cette perspective. Et je pense que ça s'explique par le fait que ce qui a permis au conflit de durer aussi longtemps, c'est l'impunité de l'État d'Israël. C'est-à-dire l'État d'Israël a pu violer toutes les décisions, toutes les résolutions, toutes les déclarations de l'ONU pendant des décennies, sans jamais en payer le prix. Alors il y a le prix de l'isolement diplomatique, dont on a parlé, qui commence à coûter cher. Il y a le prix possible d'une condamnation à la Cour pénale internationale ou à la Cour internationale de justice. Et puis il y a, plus généralement, le prix de ce qu'on appelle la campagne boycott des investissements sanctions, qui commence à se faire ressentir. Moi, j'ai lu très récemment un sondage disant qu'un tiers, je crois, des patrons israéliens s'inquiétaient des effets du boycott. On a déjà des entreprises israéliennes implantées dans les colonies qui ferment leur usine de Cisjordanie parce que elles redoutent de ne plus pouvoir écouler leurs produits sur le marché israélien, compte tenu que, là aussi, l'Union européenne a mis en œuvre ses lignes directrices qui refusent aux produits des colonies les privilèges dont bénéficie Israël du fait de l'accord d'association. Donc on est quand même devant quelque chose qui va au-delà, là aussi, des gesticulations diplomatiques, mais qui peut avoir un poids, y compris dans le débat politique en Israël, à la veille des élections législatives du 17 mars prochain.
Alors, un boycott dont vous parlez justement dans votre ouvrage, qui a été lancé, en tout cas cette opération lancée en 2005. Il aurait quand même fallu 9 ans pour que les effets commencent à se faire sentir sur le plan économique. Xavier Baron, un commentaire.
Oui, non, mais ce boycottage, effectivement, est très important parce que d'abord, il s'applique pas seulement à l'Europe, mais même aux États-Unis, on voit dans les universités, les choses bougent, ce qui est quand même assez nouveau. Ça risque de coûter très cher à l'économie israélienne. Ça s'ajoute donc à l'évolution diplomatique et éventuellement à l'évolution juridique. Ceci dit, la Cour pénale internationale, c'est pas parce que les Palestiniens y adhéreront officiellement et tout que les choses sont quand même beaucoup plus simples, puisque ni les États-Unis ni Israël ne sont membres de la Cour internationale, et il va falloir que le Conseil de sécurité quand même intervienne à un moment ou à un autre, et là on risque d'avoir un veto américain. Mais enfin, c'est une menace considérable, c'est certain, parce que la semaine dernière encore, où il y a 2 semaines, Amnesty International a listé un certain nombre d'actes commis par Israël, le gouvernement israélien pendant la guerre de Gaza l'été dernier, qu'il a qualifié de crime de guerre. Donc là, il y aura du travail, effectivement.
Alors, Hassan Balaoui, je l'évoquais en introduction de l'émission, janvier 2015 va marquer le 10e anniversaire de l'élection de Mahmoud Abbas au poste de président de l'autorité palestinienne. Rapidement, quel bilan peut-on faire ? Est-ce que les Palestiniens aujourd'hui sont unis dans la stratégie qui est en train d'être adoptée, ce changement de façon de faire des Palestiniens, notamment à l'ONU, comme on l'a évoqué ?
Écoutez, le président Abbas s'est toujours fait marquer par sa conviction que la question palestinienne ne pouvait être résolue que par les négociations. Et il a entrepris dès les années 70 des contacts, au départ secrets, mais petit à petit qui est devenu public, avec toute personnalité israélienne, pour parvenir justement à une solution de l'État. Et le président Abbas, tout au moment fort de deuxième intifada militaire, lorsque le président Arafat était encore en vie, il a proclamé son désaveu totalement de l'intifada militaire. Et donc, je dirais que c'est un homme, depuis très longtemps, il a misé, et il mise encore sur la voie pacifique pour parvenir à une solution. Et je crois qu'il reste fidèle à ses engagements et il est en train d'essayer de sauver cette solution de jouer. C'est dans ce sens-là qu'elle déploie toute son énergie en donnant une chance à toutes les tentatives de faire revenir la solution de deux États. Je crois que les Palestiniens, il y a une certaine majorité relative qui croit à la possibilité d'une paix de deux États. Mais c'est une majorité qui pourrait basculer et qui commence à être affaiblie compte tenu les réalités, les faits accomplis menés par le gouvernement israélien sur le terrain de colonisation, d'agression, d'incursion tous les jours.
Alors, Dominique Vidal.
Il y a un atout que les Palestiniens ont forgé eux-mêmes depuis le printemps, qui est l'existence, très difficile à mettre en place, d'un gouvernement d'union de l'ensemble des grandes forces palestiniennes. Alors il est clair que c'est un gouvernement qui est encore fragile, et on sait que dans la négociation précise de l'ensemble de ses prérogatives, et en particulier dans la bande de Gaza, il y a des difficultés et on n'est pas loin de là dans une unité forgée de manière définitive. Mais je suis frappé par le fait que cette semaine aussi, le Hamas a officiellement annoncé qu'il soutenait les démarches de l'autorité palestinienne à l'ONU et qu'il les appuyait. Ce qui, en clair, signifie, et on le sait depuis longtemps, que le Hamas est prêt à affirmer, en tout cas, son soutien à l'idée d'un État palestinien à côté d'Israël. Alors c'est une affirmation démentie par beaucoup de déclarations de dirigeants du Hamas, mais il faut le noter parce que le fait que les Palestiniens aient été divisés, qu'Israël ait pu jouer pendant des années, depuis 2006 en particulier, sur l'opposition, parfois même violente, entre le Fatah et le Hamas, tout cela avait beaucoup servi la politique israélienne. À partir du moment où les Palestiniens arrivent à se réunifier, ça leur donne une plus grande force, pas seulement sur le terrain diplomatique, aussi sur le terrain tout court.
Absolument.
Hassan Belaoui, très rapidement, il nous reste 30
secondes. J'ajouterai juste mon accord avec Dominique Vidal, d'autant plus que toute stratégie palestinienne vers l'avenir, ça nécessite aussi un accord avec Hamas. Donc c'est important, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi en termes de perspective. Et aussi, je crois que un des objectifs de la dernière guerre israélienne sur Gaza, c'était de casser ce gouvernement d'entente nationale.
Et alors, l'autre question, Xavier Baron, en guise de conclusion, les élections législatives anticipées de mars prochain, donc mars 2015, peut-être un gouvernement plus souple pourrait en sortir.
Tout est possible. Effectivement, les derniers sondages montrent que, disons, l'alliance de gauche ou centre-gauche aurait un ou deux sièges de plus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils pourront gouverner, parce que avoir 25 ou 26 sièges sur 120, on est quand même loin de gouverner. Mais en tous les cas, faut espérer que vraiment on entre dans une période où on discute concrètement des conditions de la paix.
Alors Hassan Belaoui, une seconde.
Une seconde. Je crois que les élections israéliennes doivent être un moment fort important de renforcer la reconnaissance de l'État de Palestine pour envoyer un message au public israélien que plus que jamais Israël est isolé et que si ça continue de cette façon, Israël sera isolé davantage. Donc c'est pour pousser à ce qu'il y ait un gouvernement qui change cette politique d'occupation.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Hassan Belaoui, membre de la mission Palestine auprès de l'Union européenne et responsable des relations bilatérales avec la Belgique et le Luxembourg, Xavier Baron, journaliste, ancien chef du bureau de l'agence France Presse au Proche-Orient, auteur de « Les Palestiniens, jeunesse d'une nation », et Dominique Vidal, écrivain et journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien et son histoire. Dernier ouvrage paru, « Palestine, le jeu des puissants » aux éditions Actes Sud dans la collection Sinbad. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission réalisée en partenariat avec l'association Euromed IHEDN, Institut des Hautes Études de Défense Nationale, signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique vous sera présentée par Christophe Boisbouvier depuis Dakar, où se tenait cette semaine le premier forum international paix et sécurité en Afrique.
Appelez-nous, exprimez-vous.